101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Vous écoutez Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pirard, à la mise en onde Wilfred Edzoa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Parlons éducation. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick.
Alors il fait magnifique en ce beau dimanche d'après-tempête.
Alors tu es de retour parce que j'ai animé pendant deux émissions par moi-même avec mes invités. Alors bon retour.
Mais merci beaucoup, c'est très gentil.
Et bravo, que ça a passé des belles vacances.
Bravo pour ces belles émissions. Oui, oui, j'ai passé des vacances extraordinaires.
Bon, ben c'est bien ça.
Je peux te confirmer.
Alors éventuellement, ce sera mon tour.
Ben oui, chacun son tour, absolument. Ouais. Toi, tu as eu ton tour avant, en tout cas. Ce n'est pas le sujet de l'émission. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Bernard?
Alors, aujourd'hui, moi, j'aurai le plaisir d'interviewer Mme Manon Doré, qui va venir nous parler des projets éducatifs pour les écoles alternatives. Alors, on sait que dans plusieurs centres de services scolaires au Québec, il y a certains établissements qui se targuent d'avoir des projets éducatifs et alternatifs. Alors, on va voir comment ces projets éducatifs d'abord se présentent, se définissent, s'organisent et quels sont les impacts, évidemment, sur les élèves, le personnel en général et surtout les parents. Alors, Mme Doré va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission.
Parfait, parfait. En première partie, nous allons recevoir deux invités. Nous allons recevoir François Bohen, qui est professeur et chercheur à l'Université de Montréal, ainsi que Francine Dittoré, qui est enseignante au primaire. Ensemble, ils vont nous parler d'un programme qui s'appelle Dire Mentor, un programme qui est centré sur les apprentissages socio-émotionnels pour les petits de la maternelle à la sixième année, donc qui vise par la lecture de livres de littérature jeunesse, qui vise justement à développer les capacités socio-émotionnelles des enfants. Alors, un sujet qui est vraiment très, très intéressant. Ça va être dans la première partie de l'émission. Mais avant ça, on va parler un peu d'actualité.
De la semaine, oui.
Ben oui, une semaine foisonnante, comme d'habitude.
C'est clair, oui. Alors, quelles sont les activités de la semaine?
Ben, moi, je pourrais commencer peut-être avec un sujet qui touche les écoles, évidemment, beaucoup. La Fédération québécoise des directions d'établissements scolaires, qu'on appelle souvent la FQDE,
oui.
a fait un sondage auprès de ses membres, donc des directions d'école. Et les résultats, ça dit qu'un directeur d'école sur cinq serait en train de réfléchir à son avenir pour la prochaine rentrée scolaire.
OK. Pas un directeur, une direction.
Oui. Okay. Une direction, je m'excuse. Une direction.
On est dans l'épicène.
Absolument. Exactement. Une direction d'école sur cinq réfléchirait à son avenir, donc ne serait pas sûr de vouloir continuer à être directeur.
Okay. D'exercer la fonction de direction d'établissement.
Voilà, exactement. Et les raisons qui sont évoquées, c'est évidemment une charge de travail très élevée et également des problèmes salariaux, certaines mises à niveau qui devraient être nécessaires. Il y a aussi d'autres problèmes, mais c'est les deux principaux. On parle de non-stabilité d'emploi, conciliation travail-famille, gestion de la pénurie des enseignants et des parents aussi, qui sont des motifs qui sont soulignés par les directions d'établissements scolaires. Dans plusieurs centres de services scolaires, il y a des postes de directeurs, de directrices et d'adjoints qui sont disponibles.
Non comblés.
Qui sont non comblés, exactement. Et souvent, les banques de candidats sont vides, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on s'en souviendra.
Ça se peut que ça s'inscrive dans le phénomène plus global de la pénurie aussi en même temps? Parce que s'il y a une pénurie au niveau du personnel scolaire, J'imagine qu'éventuellement, il y aura aussi une pénurie au niveau des administrateurs. Est-ce que ça peut s'inscrire là-dedans aussi ou bien c'est vraiment relié à la nature de la tâche?
Ça, il semble que ce soit relié à la nature de la tâche, également au rattrapage salarial qui pourrait être nécessaire avec la nouvelle convention collective qui a été signée pour les enseignants. La différence entre une direction d'établissement et un enseignant au maximum du salaire a fondu. C'est-à-dire que, quelques chiffres, là, 110 000 $ pour 40 heures de travail sur 200 jours pour une enseignante ou un enseignant. Hein? C'est ça, au maximum de l'échelle, oui, c'est 110 000 $. Et pour une direction, c'est 128 000. Hein? Mais la direction va travailler 54 heures en moyenne par semaine sur 260 jours.
Oui.
Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Là, éventuellement, j'imagine que le gouvernement va se pencher là-dessus. Mais il en reste
ça serait peut-être intéressant d'inviter une direction d'établissement qui est en action actuellement, puis de regarder avec cette personne-là s'il n'y a pas d'autres impacts. Bon, il y a j'entends qu'il y a la dimension salariale.
Oui. Mais tu sais. Puis la charge de travail aussi.
La charge de travail. Mais la question que j'avais, c'est avec l'adoption de la nouvelle gouvernance où les directions générales, le directeur ou la directrice générale relève directement du ministre,
oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas là un impact aussi au niveau de la charge de travail? Ça serait intéressant éventuellement d'expertiser ça.
Tout à fait. On pourra creuser ça. Mais tu parles de direction générale. Il y a beaucoup de départs à la retraite dans les directions générales des centres de services scolaires. En 3 ans, la moitié des DG ou des DGA, des directeurs généraux adjoints, ont été remplacés. Et donc, les candidats, là non plus, ne se bousculent pas parce que, les responsabilités sont très hautes. Tu connais très bien ça. Des budgets énormes, beaucoup, beaucoup de travail, mais aussi la nouvelle loi de décembre dernier là, qui met les directions générales directement sous la tutelle, c'est pas le bon mot,
sous la responsabilité du ministre
qui peut nommer, qui peut revenir sur des décisions, etc. Mais alors ça, c'est pas des choses nécessairement encourageantes quand on veut occuper un poste comme celui de direction générale.
Mais en même temps, ça permet à ces gestionnaires-là de direction générale, parce que ça ne concerne pas les directions générales adjointes, ça concerne seulement les directions générales, ça leur permet aussi d'avoir accès à des postes dans la fonction publique parce qu'ils deviennent des employés de l'État.
Mmh. C'est vrai? C'est vrai.
Alors, tu sais, il peut y avoir une certaine mobilité parce que, faut se souvenir que le ministre avait dit qu'il y avait un regard sur les décisions.
Oui.
Maintenant, c'est des gens qui vont demeurer des employés de l'État aussi.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Alors, il pourrait y avoir là, à mon sens, un aspect qui favorise la mobilité. Mais tout ça est très hypothétique, puisque cette nouvelle gouvernance-là est effective seulement depuis le 1er janvier.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Alors, c'est maintenant que depuis le 1er janvier, les conseils d'administration ne peuvent plus nommer des directions générales.
Exact.
Alors, il y a là des gestes qui vont suivre quand ces gens-là vont partir à la retraite. Bien, on va voir, ou quand ils auront des difficultés, on va voir comment ils se repositionnent dans le réseau. Mais ça, évidemment, on aura l'occasion d'en replacoter, évidemment.
Certainement. De mon côté,
ce qui a retenu mon attention, évidemment, c'est le tableau de bord présenté par M. Drainville, notre ministre de l'Éducation. Tableau de bord dont j'ai pris connaissance, évidemment. Et le tableau de bord, c'est censé aider le ministre et son équipe, parce que évidemment le ministre n'est pas seul. C'est censé aider le ministre à avoir un portrait toujours en direct de la situation du réseau de l'enseignement qu'il dirige. Alors, je peux te nommer certains items qui sont dans ce tableau de bord-là. Alors, il y a de l'information sur les élèves, évidemment. Les élèves du secteur primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale, les adultes. Le niveau de diplomation et de qualification. Alors, si j'imagine que ce tableau de bord-là va être mis à jour sur une base régulière. Les jeunes qui sortent sans diplôme ni qualification. Alors ça vient un petit peu alimenter toute la rhétorique de la persévérance scolaire, du décrochage. Alors le ministre aura ça sous les yeux, quoique je pense qu'il l'a déjà, mais ça sera peut-être plus évident ou ça sera peut-être calculé d'une manière différente. Alors lui seul pourra nous en reparler. Ce qui est nouveau, il y aura aussi de l'information concernant l'entrée tardive au secondaire. Alors ça, c'est quelque chose qui reste à documenter. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, qui demeurent, entre guillemets, trop longtemps au niveau du primaire? Alors ça, évidemment, il y a de l'information intéressante là-dessus. Je ne pense pas là qu'il y aura une mine de jeunes si importante que ça, mais le ministre voulait le savoir quand même. Les résultats aux épreuves ministérielles. Alors, moi, j'étais surpris de voir ce critère-là dans ce tableau-là, parce qu'il y a déjà toute l'information, de toute façon, puisque ce sont des épreuves ministérielles.
Oui.
Donc, c'est de l'information.
Mais c'est ce que le but du tableau de bord, c'est aussi de rendre ces informations-là publiques. Hein?
Oui. Alors, c'est pour ça, tantôt, que quand je vais conclure, je vais te dire que c'est davantage un exercice de communication. Le personnel scolaire, bon, on en a beaucoup parlé. La pénurie, là, ça fait un petit bout de temps, dans nos émissions, on en a parlé. Alors, on aura de l'information sur le personnel scolaire, la rétention, l'intégration des enseignants, j'imagine, les départs à la retraite, ce que M. Drainville trouvait qu'il n'y avait pas comme information à l'été. Alors, il y aura de l'information qui va toucher ça. La qualité de l'air, je vois pas. Qu'est-ce que ça vient faire là?
Quand la qualité de l'air est bonne, on apprend mieux.
Oui, mais quand même. Alors, on est dans un... C'est parce que tous les éléments qui précèdent, ce sont de l'information qui concerne l'aspect humain de notre réseau scolaire, puis là, on tombe dans un domaine purement technique. Alors, c'est un tableau, j'imagine, qui va faire...
C'est les suites de la COVID, évidemment.
Oui, je comprends. Mais c'est parce que dans un tableau de bord, ça prend de l'information qui interagit ensemble souvent. Et la structure du réseau scolaire, bien, on verra qu'est-ce que le ministre peut mettre là-dedans. Mais évidemment, ça va peut-être toucher tout ce qui touche l'organisation avec les enseignants. Tu sais qu'au début des négociations avec les profs, à l'automne, M. Legault avait demandé davantage de souplesse dans les conventions collectives. Souplesse qu'il n'a pas eue, je pense, là, avec les résultats que nous avons. Mais peut-être qu'il y aura des informations qui vont venir nous informer sur quels seraient les changements potentiels à effectuer si on veut améliorer la structure du réseau scolaire. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Évidemment, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le parallèle que je fais, puis il va en être question dans notre prochaine émission, parce qu'on va davantage forer ce sujet-là.
Oui, oui.
Pour moi, un tableau de bord, ça sert à un pilote. Alors, est-ce que le ministre, maintenant, se voit comme étant un pilote, le ministre et son équipe? Alors, il faudra voir quel rôle il se donne. Alors, moi, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un outil qui soit présenté, que le vocabulaire soit mis de l'avant. Il est question de données probantes, il est question de toute cette nouvelle approche que le personnel scolaire met de l'avant depuis 15 ans maintenant dans les centres de services scolaires, parce que c'est pas nouveau pour des gens qui sont dans le réseau. Pour monsieur, madame, tout le monde, en tout cas, c'est davantage un exercice de communication, mais on aura l'occasion d'y revenir.
C'est ça. C'est intéressant d'avoir de l'information. Hein. On sait que ça manquait, la transparence, l'information, etc.
Oui.
Maintenant, on a un peu d'information. Maintenant, est-ce que cette information-là va permettre de prendre des décisions? Bon, on verra ça dans un prochain épisode.
Normalement, dans un tableau de bord, quand on regarde le rôle d'un pilote,
c'est à ça que ça sert,
oui, à prendre des décisions, puis ajuster le vol.
Exactement.
Alors, est-ce que le vol sera ajusté?
On en reparle dans notre prochaine émission.
On en recevra l'occasion d'en reparler
à l'écoute
l'an prochain, surtout quand il y aura, des outils de vol qui vont être en action.
Parfait.
Et toi, de ton côté, pour terminer?
Écoute, le temps passant, Bernard, on va prendre une petite pause musicale, on va passer tout de suite au sujet,
J'étais trop long.
Je veux garder... Non, pas du tout. Je veux garder du temps pour nos invités. Là, c'est important.
Bien.
Donc, on fait une petite pause musicale et on vous revient dans quelques instants avec François Bohen et Francine Dittori. Alors, on est de retour avec nos premiers invités d'aujourd'hui. Bonjour, Madame Dittori. Bonjour, Monsieur Bowen. Est-ce que vous êtes à l'écoute?
Bonjour, vous allez bien?
Ben oui, ça va très bien, et vous?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous en ce beau dimanche. C'est très, très aimable de votre part pour nous parler donc de ce programme qui s'appelle Dear Mentor, un programme qui vise le développement des apprentissages socio-émotionnels chez les enfants de la maternelle à la sixième année. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par vous, Madame Dittoré. Vous êtes enseignante au primaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, une séance du programme Dear Mentor en classe, comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites?
Oui. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est de créer dans la classe un climat pour le partage avec plaisir, écoute et rigueur, je dirais. Tu sais, de prendre ce temps-là, je pense que tous les enseignants et les enseignantes le font, mais c'est primordial pour moi là, quand on fait un travail avec Dear Mentor. Bien sûr, il faut faire un choix, choisir l'album. Parce que Dear Mentor, c'est 65 albums jeunesse qui ont été choisis par une équipe de travail à l'Université de Montréal, des experts aussi en littérature jeunesse. Et il y a des plans de leçons qui accompagnent ces albums-là. Donc, on choisit par rapport... On offre aussi également une planification, mais on peut la suivre ou simplement choisir un album par rapport à une problématique que je vis dans la classe. Donc, je choisis mon album, j'en fais la lecture, je regarde le plan de leçon, je regarde les questions qui me sont proposées. Pour ma part, je prends des post-it et je mets ça dans mon album. Et je commence auprès de mes élèves par une première activité qui est plus une activité, je vous dirais, pour introduire le sujet. Par exemple, si je prenais un album « Le monde des couleurs va à l'école », c'est un album pour la première année ou début de l'année. Alors, je travaillerai autour du concept de l'école. Qu'est-ce que c'est pour toi l'école? Est-ce que tu étais inquiet avant ton arrivée dans la classe? Quelles émotions tu vivais? Alors, c'est justement pour introduire mon sujet et par après, je présente l'album. On parle de l'auteur, d'autrice, d'illustrateur. On regarde les éléments du paratexte, on en discute. Et de l'intention de ma lecture. Et par après, je commence cette lecture-là avec plaisir parce que c'est plaisant pour l'enseignant et l'enseignante. Et c'est plaisant aussi pour les élèves hein, de se raconter une histoire. Ils adorent ça. Et je m'arrête. Je m'arrête à des illustrations, à l'histoire un petit peu, au personnage, tout ça, et je pose des questions qui amènent un échange. Et c'est là la richesse du programme. Les enfants donnent des opinions, ils réagissent, ils interprètent parfois, et on continue cette histoire-là jusqu'à la fin. On en discute tout au long. Et par après, dans une troisième étape, il y a une activité qui est plus d'intégration de ce qui a été vu. On ressort un peu d'histoire et on fait une activité. Ça peut être une activité artistique, ça peut être en art plastique, en art dramatique, ça pourrait être aussi des discussions qu'on va plus loin, on fait une activité plus communautaire. Ça dépend toujours un petit peu de ce qu'on a travaillé dans l'album. Voilà, c'est un petit peu ça.
Ça a l'air vraiment passionnant, en tout cas.
Oui.
Aimerait être dans votre classe pour vous voir animer ce genre d'activité-là. Mon collègue Bernard a une question pour vous.
Oui, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez observé de différent par rapport à vos élèves avant d'utiliser cette approche-là? Y a-t-il des choses qui se sont, selon vous, comme enseignante, améliorées au niveau des apprentissages des élèves? Y a-t-il des éléments sur lesquels ça vous a motivé à aller de l'avant dans un projet comme
oui.
ça?
Bien, moi, je pense que le plus important, c'est la prise de parole de l'élève. Être capable de s'exprimer, être capable d'exprimer ce qu'il ressent dans un climat de confiance, pour moi, c'est la base.
Okay.
C'est, les histoires, c'est la richesse d'une histoire. Hein? Il y a plusieurs problématiques dans une histoire. Fait que les enfants sont capables de tu sais, ils regardent les différentes histoires puis ils se disent OK, le personnage a réagi comme ça, moi j'aurais pas réagi comme ça. Fait que ces échanges-là sont, à mon avis, très importants. Autre chose, c'est que la littérature jeunesse, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre à plusieurs apprentissages. Et ça, pour moi, c'est une richesse du programme parce que ça me permet de travailler mon français, ça me permet de travailler des apprentissages socio-émotionnels, bien sûr, mais aussi le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise, hein, ça me permet de travailler ça aussi. Donc, c'est un outil très intéressant pour ça. Pour les élèves, à part ça, bien, c'est la capacité d'après de faire des liens avec l'histoire. Je vis une problématique avec des élèves, je suis en chicane, ça va pas bien. Bien, il y a des élèves, quand on essaie d'en discuter ensemble, bien, qui disent, bon, regarde, dans l'histoire, ce personnage-là, il avait réussi de telle façon. Peut-être que ça peut nous aider. Alors, ça donne des outils à l'élève également.
Alors, ça peut créer des repères, c'est ça que je comprends. Là.
Oui, tout à fait, des ancrages, oui.
OK,
oui.
Ça crée des ancrages avec... Dans le fond, ils font des liens avec ce qu'ils vivent dans la classe et avec ce qu'ils ont lu dans l'histoire, c'est ça?
Oui, oui. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi que, oui, il y a la lecture de l'album, mais après, il ne faut pas que ça tombe. Ben oui. Moi, il y a des affiches dans la classe pour faire des retours, justement, pour que l'élève se rappelle. Il faut faire des rappels de l'histoire, tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est sûr qu'il faut en faire régulièrement.
J'aurais peut-être une dernière question.
Oui.
Vous êtes enseignante au niveau du primaire.
Oui.
Est-ce que ça vous a rappelé, vous-même, une expérience que vous avez vécue dans le temps que vous étiez un élève vous-même? Parce que moi, je vous écoute, puis moi, ça vient de me rappeler que quand j'étais au primaire, au secondaire, il y a des émissions de télévision. Mais là, on parle de lecture, là, mais ça m'a rappelé, quand je vous disais tantôt que ça donne des repères, est-ce que ça vous a ramené à certains de vos repères à vous-même?
Bien, c'est sûr. Oui, c'est certain. Tu sais, ça me ramène au fait, même aujourd'hui, en tant qu'adulte, là, on regarde une émission, une série télévisée. Des fois, on est attaché au personnage, tu sais, parce que on voit des ressemblances. On dit, mon Dieu, il réagit comme ça. Ah, c'est intéressant. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais c'est la même chose, tu sais.
Okay.
C'est la même chose. Et quand vous dites des souvenirs, bien, c'est sûr que moi, dans ma jeunesse, les histoires m'ont fait grandir énormément. Et j'y crois, là. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la littérature jeunesse.
Ouais.
J'ai toujours enseigné avec ça toutes les années. Pour moi, c'est un outil assez efficace, assez puissant également.
Pour l'enseignement et la littérature en général, pour grandir, hein?
Tout
le monde. Hein? Oui, oui, tout à fait.
Tout à fait, oui.
Peut-être une question pour M. Bohen, qui est enseignant, professeur à l'Université de Montréal. En quoi la littérature jeunesse peut-elle être un médium utile pour soutenir les apprentissages socio-émotionnels? On en parle avec Mme Dittoré. Qu'est-ce que ça apporte, la littérature jeunesse, justement, dans ces apprentissages-là?
Ben, un peu comme Francine l'a expliqué, ça permet d'aller chercher des concepts, des notions, mettre des mots sur des émotions, sur ce qu'on ressent, être en contact avec des modèles qui sont dans l'histoire des personnages et qui, des fois, vont inspirer ou proposer indirectement à l'histoire des solutions à certains problèmes que vivent les élèves. Mais aussi, c'est le contact avec plein de modèles de conduite qui devient très intéressant et ça se fait dans une perspective ludique. Fantaisiste aussi, qui est pas désagréable pour l'enfant, où l'enfant peut, même comme disait Francine, s'il vit des problèmes dans la réalité avec ses pères, ou qu'il a de la difficulté à exprimer ce qu'il ressent, ou il a de la difficulté à rentrer en contact avec ses amis, les personnages lui permettent d'appréhender ces choses-là, de voir des solutions, de voir des modèles de conduite, mais sans que ce soit de lui qu'on parle. Il va avoir une identification, mais c'est beaucoup moins menaçant des fois pour un enfant à travers ce processus-là que de parler immédiatement directement de son problème. Ça va l'aider après ça à s'exprimer aussi, parce qu'il y a d'autres, personnes, il y a des personnages qui se sont permis d'exprimer ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. On a choisi des albums beaucoup dans cette perspective-là, pas dans une perspective nécessairement de l'histoire très problématique, mais on visait des termes très particuliers qui sont associés aux apprentissages socio-émotionnels, par exemple les habiletés à la communication, l'expression, la reconnaissance, la gestion des émotions de façon adéquate, s'engager dans des activités pro-sociales, s'affirmer socialement mais positivement, pas en bousculant, pas en imposant ces choses, puis développer des habiletés à la résolution de problèmes. Tous ces éléments-là, on ne les retrouve pas dans un seul album, bien entendu, mais dans différents albums. Et déjà, ça introduit à ces notions-là. Après ça, ça introduit à des notions de comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique. Puis, évidemment, ce n'est pas juste l'histoire qui donne la solution, mais comme expliquait Francine, c'est la discussion, la compréhension, comment enseignant, il faut, faut d'abord voir qu'est-ce qu'ils comprennent de l'histoire, quelles sont les notions qui sont en jeu, leur faire découvrir certaines perspectives, les amener à parler de leur appréciation de l'histoire, du genre d'inférence qu'ils font. Parce que dans le programme de français, entre autres, à travers le développement des habiletés à la lecture, il y a la question d'appréciation, mais il y a toute la question de dans quelle mesure les enfants sont capables de faire des inférences, de comprendre la situation. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être transférables dans les situations quotidiennes. Et comme disait Francine aussi, il faut que ça se fasse de façon systématique. C'est pas en disant une fois de temps en temps une histoire. C'est toujours correct en soi de le faire, mais la recherche montre que c'est en le faisant systématiquement, de façon soutenue, qu'on arrive à des résultats assez probants. C'est important.
Monsieur Bruin, Bernard a une question pour vous.
Oui, bien, oui. Je profite du fait que nous avons un chercheur en éducation avec nous ce matin. Dites-moi, bon, Patrick et moi, on vient du monde de l'éducation. Je comprends que vous avez travaillé avec une enseignante qui était en action dans une salle de classe.
Oui.
C'est quoi le regard que vous portez sur les liens entre le monde universitaire et la recherche pratique? Parce que vous avez dû travailler avec cette personne-là. Des fois, au Québec, c'est-tu facile de faire ça? Est-ce qu'on est vraiment au bout de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre réseau d'éducation, évidemment?
Vous posez une question extrêmement intéressante. La question de... Il y a un peu des mythes à démolir, à défaire autour de ça. C'est que des fois, les gens parlent des chercheurs en éducation comme étant dans leur tour d'ivoire, étant déconnectés de la réalité, énonçant des principes théoriques qui ne sont pas applicables dans la pratique. Moi, ce que je vois, ça fait 30 ans que je fais de la recherche en éducation, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de la recherche évaluative. Je n'ai jamais fait aucune recherche sans l'avoir faite en collaboration avec les milieux scolaires.
Okay.
Le programme Dire-Mentor, c'en est un bon exemple. Mm-hmm. On a travaillé avec une dizaine d'écoles, on les a accompagnés pendant 4 ans. On a pris en considération toutes leurs recommandations, leurs suggestions. On a travaillé avec des enseignantes comme Francine. Francine a travaillé avec d'autres enseignantes. Ça a été vraiment ce qu'on appelle une recherche collaborative. Et ça, il y en a beaucoup dans les milieux d'éducation, mais ils ne sont pas toujours bien connus. Et je dirais, sans rentrer trop sans faire comme un débat, je dirais que ce que permet de faire ces recherches-là en éducation, ça permet d'identifier. On parle beaucoup des données probantes. Mais ça permet aussi de dire, OK, par exemple, dire mentor, c'est une bonne pratique. Ça donne des résultats. Je pourrais vous donner des détails de l'évaluation qui a été faite. Mais plus important que de dire, ah, ça donne des résultats, comment on l'applique?
Okay.
C'est quoi les conditions pour y parvenir? Parce que c'est pas en criant ciseaux qu'on va y arriver facilement. Et on travaille avec des êtres humains. Donc, la recherche en éducation, beaucoup sur ces aspects-là. Je
ne
sais pas si j'ai bien répondu.
Oui, vraiment. Ben moi, je comprends aussi que il s'en fait. J'ai compris dans votre commentaire qu'elle est mal connue ou qu'on pourrait la communiquer davantage. Si je vous ai posé la question, c'est parce que moi, ayant fait ma carrière dans le monde de l'éducation, des fois, j'avais comme le sentiment que les universitaires étaient difficiles à rejoindre aussi. Mmh. Mais je comprends aussi que du côté universitaire, le réseau peut être difficilement rejoignable aussi.
Côté scolaire.
Alors, on aura peut-être éventuellement l'occasion d'en reparler, là, afin d'améliorer ça, évidemment.
Mais vous, si vous permettez, ça me permet de faire un petit commentaire brièvement. Si vous disiez que les universitaires, c'est difficile à rejoindre, vous avez en partie raison, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être en contact avec le milieu scolaire. Le travail de formateur à l'université, de chercheur, d'administrateur, parce qu'on gère aussi des programmes, fait en sorte que...
là aussi, la tâche est lourde.
Pas toujours. Voilà, exactement. Mais je connais aucun de mes collègues qui vont refuser de travailler avec les milieux scolaires dans les conditions qui vont leur être.
En tout cas, je vous félicite et je vous remercie pour votre collaboration avec Mme Dittoré. Je vais laisser Patrick clore l'entrevue.
Tout à fait. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que, dans le fond, c'est un message qu'on envoie à tous les enseignants qui nous écoutent que, oui, justement, le milieu universitaire est ouvert. Ils le savent en général, là, mais c'est toujours bon de se le rappeler et éventuellement de faire des appels. Moi, je trouve, en tant qu'animateur de l'émission Parlons éducation, que les professeurs d'université sont faciles à rejoindre pour parler des sujets sur lesquels ils travaillent. Et donc, ça, déjà, ça, c'est extraordinaire. Malheureusement, le temps file. Hein, c'est déjà quasiment fini. Je ne sais pas si, Mme Dittoré, si vous auriez un mot de la fin, là, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre classe là, d'extraordinaire, un souvenir de l'animation d'une activité avec un enfant, je ne sais pas. Rapidement.
Oui. Récemment, justement, J'ai lu un album qui s'appelle Le Petit Geste, qui était sur la prise de décision responsable. Et par la suite, quelques semaines après, je revenais avec les élèves, puis on en parlait. Il y a des affiches, hein, il y a du matériel autour du programme. Alors, je disais, bon, la prise de décision responsable, est-ce que c'est important? Puis j'ai un élève qui me dit, ça a changé ma vie d'avoir cette affiche-là, d'avoir lu cet album-là aujourd'hui. Je suis capable de réfléchir avant de prendre la décision. C'est un élève de quatrième année qui me dit « ça a tout changé parce que maintenant, je m'évite beaucoup de problèmes ». Fait que déjà là, moi, je suis
contente. Tout à fait. C'est extraordinaire. Hein. C'est ça la force de ce genre de programme, de projet. Et les enfants sont très ouverts à tout ça. Évidemment, il faut leur proposer des choses bien structurées, bien animées, etc., comme vous le faites, en collaboration entre l'université et les écoles. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais aimé qu'on aille plus loin. Malheureusement, c'est déjà terminé. Alors, un grand merci, Mme Dittoré, enseignante au primaire. Un grand merci, M. François Bowen, professeur et chercheur à l'Université de Montréal. Et bravo pour votre travail. À bientôt, peut-être.
Oui, à bientôt, peut-être. Merci de nous avoir invités. C'est très apprécié.
C'est un plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée. Bon
merci à vous aussi. On va faire une petite pause publicitaire et ensuite on revient dans la deuxième partie avec l'entrevue avec Mme Manon Doré.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
OK. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes de retour à Parlons éducation avec Bernard Dufour et moi-même, Patrick Pierra, au micro. Wilfred Edzoa à la mise en onde. Vous savez que vous pouvez nous écrire à notre adresse courriel parlonséducation en un seul mot, @hotmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires, etc. Et si vous avez envie de jouer au bingo, ben, c'est aujourd'hui à 13h, le bingo de CBL, pour justement soutenir votre radio communautaire qui offre tant de bonnes émissions. Alors, tout ça, c'est sur le site de CBL, également pour nous réécouter, www.cibl1015.ca. Vous pouvez aller sur le site et donc vous allez pouvoir nous entendre, vous allez pouvoir faire plein de choses, découvrir plein de bonnes émissions. Alors, on fait une petite pause musicale et on commence tout de suite après l'entrevue avec Mme Manon Doré.
CIBL 101.5 Montréal.
La deuxième partie de notre émission. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mme Manon Doré. Bonjour, Mme Doré.
Bonjour, M. Dufour.
Alors, Mme Doré, vous allez nous parler des écoles alternatives. Je sais que vous avez dirigé de ce type d'école et même vous en avez implanté plusieurs et que vous êtes très impliquée. J'aurais quelques questions pour vous, mais en attendant, est-ce que ça va bien?
Je vais très bien, puis je vous remercie d'avoir pensé à moi pour partager cette passion pour les écoles alternatives.
Bon, ben, je suis très content. Alors, ma première question, évidemment, c'est la question un peu que tout le monde se pose quand on voit dans un dépliant d'un centre de services scolaires que telle école a un projet à caractère alternatif. Alors, les gens se disent, bon, c'est alternatif, ça veut-tu dire que c'est meilleur? Ça veut-tu dire que c'est différent? Il y a beaucoup de questions par rapport à ces projets-là. Alors, j'aimerais ça que vous me disiez, grosso modo, les différences qu'il y a entre une école dite alternative, puis je vais prendre un autre épithète pour une autre école, on va dire traditionnelle. Alors, c'est quoi les différences pour un parent qui se demande... son enfant est en première année l'an prochain, par exemple, puis qui voit ça, là. Alors, selon vous, quelles sont les différences entre ces deux types d'écoles-là?
Une des premières différences qu'on peut voir de nos yeux, c'est la place des parents. Quand on choisit un projet d'école alternative, c'est que comme parent, on a envie de s'impliquer, d'être engagé, puis de prendre place dans l'éducation de notre enfant, mais aussi des autres enfants. On devient des parents un peu... co-éducateur. C'est une des grandes différences. La deuxième différence, c'est que je voudrais que l'enfant est vraiment au centre des préoccupations à tous les jours. Je ne dis pas que dans les écoles traditionnelles, l'enfant n'est pas au centre, mais dans les écoles alternatives, les enseignants deviennent des guides qui doivent les amener à prendre place dans leur processus d'apprentissage à travers différentes pédagogies, qui est majoritairement la pédagogie par projet. Donc, les enfants sont à même de faire leurs apprentissages à travers des expériences plus réelles, je vous dirais, que dans une école plus traditionnelle.
Alors, d'après ce que je comprends, les parents dans une école alternative sont davantage présents physiquement même. Là. Donnez-moi des exemples de présence de parents. Bon, vous dites que ça devient des parents co-éducateurs. Ça serait quoi des gestes au quotidien, par exemple, qu'un parent pourrait poser dans une école alternative? Il faut avoir de la disponibilité, premièrement. J'imagine que ces parents-là affichent une certaine disponibilité. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement?
OK. En effet, il faut qu'il soit disponible, mais il y a plusieurs façons de l'être aussi. C'est sûr que majoritairement, on demande aux parents d'avoir du temps le jour. Puis moi, ce que j'ai vu au fil des années, c'est qu'avec un horaire de travail, on peut être présent. Donc, chaque école alternative met un nombre d'heures par année ou par mois qu'on demande aux parents d'être présents, de participer à la vie scolaire. Certains parents, ça peut même être de soi. Il y a des comités aussi que des parents peuvent faire. Quand ils viennent à l'école le jour, souvent l'enseignant va les accueillir puis il va leur indiquer c'est quoi l'aide qu'ils ont besoin. Ils deviennent pas des enseignants, mais ils sont capables de prendre un groupe d'élèves puis de les accompagner pour poursuivre un travail. Pendant ce temps-là, l'enseignant, ça lui permet de prendre un plus petit nombre d'élèves pour voir un enseignement peut-être plus précis avec des élèves qui ont des difficultés ou une nouvelle matière, compétence à développer. Okay. Donc, le parent, il peut accompagner à l'école de cette façon-là.
Et quand un parent... Aussi... Oui, excusez, allez-y.
Non, mais il y a aussi de venir selon nos forces. Chaque parent a aussi des compétences et des connaissances, puis peut bâtir des petits ateliers, des petites conférences, accompagner des élèves selon ce en quoi ils se sentent plus à l'aise aussi. Puis il y aurait les comités pour développer l'école.
Alors, je comprends que les parents qui ont une certaine expertise peuvent la partager avec les enseignants puis les autres élèves. Mais quand un parent décide d'inscrire son enfant dans une école alternative, Est-ce qu'il le fait, selon vous, selon les besoins du parent ou les besoins de l'élève? Comment vous évaluez ça? Ou c'est une combinaison des deux?
Mais c'est toujours le besoin de l'élève. C'est toujours ça en premier. C'est vraiment ça. Chaque enfant a sa particularité, puis le parent accompagne son enfant, mais les autres élèves aussi, puis répond aux besoins. Mais c'est un travail de... ça implique toute une communauté. Fait que le parent aussi peut apporter son expertise. Mais il ne devient jamais l'enseignant. Moi, je veux rassurer les gens qui écoutent. Parent n'a pas à enseigner. Le parent, il va être accompagnateur, il va être co-éducateur, puis il peut apporter des choses, mais toujours avec le regard de l'enseignant, puis la complicité.
OK. Alors, il y a M. Pierrard qui avait une question pour vous, Mme Doré. Là.
Bonjour, Manon.
Bonjour.
En fait, moi, ce qui m'interpelle, mais c'est que quand on envoie son enfant dans une école alternative, on s'engage en tant que parent formellement à donner un certain nombre d'heures. Est-ce exact?
Oui.
Donc, il y a une obligation là, qui vient avec ça.
Oui, oui, on essaie, oui. Puis dans la majorité des écoles, les parents, on adhère à des valeurs communes. Hein? Donc, c'est vraiment un projet de famille. Je dis toujours, les écoles alternatives, c'est pour tous les enfants, mais c'est peut-être pas pour tous les parents. Hein? C'est vraiment quelque chose qu'on adhère puis qu'on veut partager avec son enfant. Puis c'est... Ça a du beau aussi de pouvoir évoluer dans le même milieu que son enfant. J'ai toujours dit, enfin, quand on s'assoit en train de prendre le repas du soir, puis qu'on demande à son enfant qu'est-ce qu'il fait, on le sait parfois parce qu'on y est allé ou on a passé la journée, mais on connaît mieux ça, puis les échanges à table deviennent intéressants aussi. Mais oui, il faut y mettre du temps. Ces parents-là choisissent d'y mettre du temps.
C'est bien, merci. Pour les enseignants, moi, je me souviens on avait une école alternative dans les centres de services scolaires dans lesquels j'ai œuvré. Quand il arrive le moment de choisir les enseignants, qu'un enseignant qui enseigne dans une école alternative, selon vous, est-ce qu'il y a un profil particulier qui est différent d'une école plus traditionnelle, mettons?
L'enseignant, c'est le même baccalauréat, c'est les mêmes connaissances, compétences. Par contre, c'est l'ouverture et le désir de vouloir accompagner l'enfant dans son développement global puis d'accepter de ne pas le faire seul. Je pense que c'est ce que ça demande le plus, c'est l'ouverture. En même temps, moi, ce que j'ai pu voir au fil de ma carrière, c'est très stimulant pour les équipes parce qu'on est continuellement en formation continue. Il y a des temps d'arrêt pour les enseignants. On doit connaître bien notre programme pour pouvoir s'assurer que l'enfant, au travers des années qui est à notre école, bien, puissent atteindre les mêmes compétences que les autres enfants. Les enseignants, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment de s'assurer que chacun d'eux développe à travers ses projets les compétences requises et, si c'est pas le cas, de trouver aussi comment enseigner, voir les enfants. Ce qui est très intéressant, c'est des groupes multi-âges la plupart du temps. Puis, on peut prendre un petit groupe d'enfants, justement, quand des parents viennent accompagner des enfants dans leur projet personnel. Mais ça permet à l'enseignant d'enseigner un plus petit nombre d'élèves, d'avoir un moment précis. Et c'est privilégié de les accompagner de cette façon-là.
Quand vous dites que les enseignants qui travaillent dans une école alternative vous demandez... Vous suscitez l'ouverture, ça serait comme l'ouverture à d'autres collègues, donc la collaboration, puis l'ouverture aux parents, j'imagine, qui sont présents dans l'école, parce que la cohabitation des parents et des enseignants, c'est pas toujours facile non plus, là.
Non, et ça s'apprend. Ça s'apprend. Chaque école alternative, quand on le fait, il faut s'accompagner, il faut se donner du temps, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, on a des complices avec nous, on n'est pas seul. Puis moi, j'arrive à dire que comme le parent, c'est lui qui connaît mieux son enfant. Okay. Alors, c'est riche de pouvoir l'avoir à nos côtés pour nous accompagner puis nous guider. Mais il y a vraiment une belle collaboration qui s'installe, mais je veux préciser que l'enseignant demeure toujours maître à bord de son école, de sa classe.
Il y avait Patrick qui avait une question.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on dit que les enseignants ont la même formation, évidemment, le même bac, etc. Ils enseignent le même programme de formation de l'école québécoise, évidemment. Dans le fond, qu'est-ce qui différencie vraiment le quotidien dans la classe? Qu'est-ce qui se passe dans la classe d'alternatif?
OK. Il y a ça varie un peu selon les écoles dans les modalités de fonctionnement, mais la base, c'est que l'enfant peut choisir. L'enfant va choisir un projet personnel, puis on va l'accompagner à le développer, puis il va arriver à le présenter à sa classe. Il y a aussi des petits groupes d'enfants qui vont être accompagnés dans des matières, il y a des ateliers, ils vont décider, par exemple, le matin, certaines écoles, les enfants décident à travers la journée qui leur est présentée les possibilités. Ils peuvent avoir des ateliers en français particulier, d'écriture à telle heure d'offert. Puis l'enfant, au fil de la semaine, dans son programme, bien, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais peut peut-être choisir les moments pour le faire dans la semaine. Puis les enseignants essaient de bien les guider à travers ça. Il y a aussi des temps pour aller aider d'autres personnes, développer comme je vous dis, le projet personnel prend beaucoup de place, mais de faire des appels, d'aller rencontrer des gens selon le projet que les enfants ont, la communauté aussi prend place. C'est vraiment plus global.
L'enfant a beaucoup de liberté, dans le fond, dans la gestion, si on pourrait appeler ça comme ça, de ses apprentissages. Est-ce que je me trompe?
Oui, non, vous ne vous trompez pas. Puis ce qu'il faut pour l'enseignant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des ruses pédagogiques pour s'assurer que l'enfant aussi puisse évoluer puis faire le temps scolaire nécessaire aussi pour ses apprentissages. Donc, il y a vraiment une complicité, mais l'enfant a le choix et en ayant le choix, c'est prouvé, l'enfant s'engage de façon plus sérieuse dans ses apprentissages parce qu'il choisit quand et parfois il choisit même quoi. Donc, c'est intéressant pour eux.
Alors, moi, j'ai une question, évidemment, la question qui touche la réussite des élèves. Alors,
oui.
Est-ce que, vous avez observé au fil de votre carrière, parce que je crois que vous avez vu quand même beaucoup d'élèves dans ce projet-là, oui. Est-ce que, selon vous, il y a eu des impacts sur la réussite des élèves qu'il n'y aurait pas eu ailleurs? Quels sont les éléments, une fois que les élèves ont fait tout leur primaire, par exemple, dans une école alternative, oui. Puis qui arrive au secondaire, bon, est-ce qu'il y a des choses qui sont, j'aime pas ça dire le mot meilleur, mais est-ce qu'il y a des aspects positifs dans le parcours de l'enfant quand il fréquente l'école alternative?
Oui, moi, je vais vous répondre par un commentaire qu'une collègue au secondaire m'avait fait part. Elle disait, quand les élèves arrivent à l'école secondaire, on peut tout de suite savoir lesquels viennent de l'école alternative. Dans le sens que leur rayonnement de ces enfants-là n'est pas juste au niveau académique. C'est des enfants qui ont appris à s'exprimer, qui vont lever la main, ils n'ont pas peur de l'adulte, sans être frondeur, mais ils vont poser des questions. C'est des élèves impliqués à l'école. Ce sont nos élèves souvent qui choisissent d'être impliqués dans les différents comités de leur école secondaire. C'est des enfants c'est toujours le plus drôle que comme parent je recevais, les enfants ils comprennent pas qu'il y en a qui sont gênés de faire des présentations orales devant les autres. Ils sont à l'aise. Okay. Les enfants, ils réussissent peut-être pas mieux. Ceux qui ont des difficultés, on les accompagne. Ceux qui vont bien, on les nourrit, on y va avec des enrichissements aussi. Mais c'est des enfants qui, moi, ce que j'ai vu, puis ce que j'entends, c'est qu'ils vont obtenir leur diplôme.
Okay, puis
ils vont persévérer.
Je comprends que le niveau de confiance et d'estime de soi est plus fort, peut-être, là, pour ça.
Oui, et de connaissance de soi aussi.
Dites-moi, Mme Doré, notre entrevue va se terminer bientôt. Bon, moi, évidemment, j'ai vu plusieurs projets éducatifs comme... vous me corrigerez, là, Montessori, Waldorf. Bon, des fois, on voit ça, des approches pédagogiques. Est-ce que c'est ces théories-là ou ces écoles-là, en tout cas, vous me direz le bon mot qu'il faut prendre, là. Est-ce que c'est des projets, est-ce que ce sont des écoles alternatives comme l'école, bon, c'est Montessori, je pense, hein, le vrai nom, là.
Oui. C'est des choix différents. C'est des choix différents. Je ne suis pas une experte au niveau de l'école Montessori, mais je peux vous dire que l'école publique alternative est une école parmi d'autres avec un projet qui est c'est pas des écoles à projet vraiment particuliers. On fait partie des autres écoles. Elles existent depuis 50 ans. L'année prochaine, on fête les 50 ans des écoles alternatives. Il y en a plus de 50 parce que c'est des... Les parents font des choix, puis il y a encore des demandes pour créer d'autres écoles. Okay. Donc, c'est des écoles qui répondent à un besoin, qui sont reconnues par le ministère avec une façon de faire différente, mais qui plaît à certaines personnes. Je ne vais pas porter un jugement sur les autres types d'écoles, je ne suis pas assez connaissante, mais les écoles alternatives existent bel et bien depuis longtemps, puis ont fait leurs preuves au niveau de la réussite des enfants.
Donc, je comprends que ce qui caractérise les écoles alternatives, c'est qu'elles sont ancrées avec les besoins d'une partie de la communauté, parce qu'évidemment, il y a des profils parentaux, il y a des profils d'élèves qui correspondent pas au projet éducatif d'une école. Alors, c'est fait pour répondre à une partie des parents, c'est ça que je comprends, là.
Bien, les parents qui ont envie d'être présents dans la vie scolaire de leur enfant, d'accompagner puis de faire la différence, puis qui veulent être engagés dans ce processus-là, oui, la place des écoles alternatives, c'est fait pour ça.
OK. J'aurais peut-être une dernière question. Quand un parent décide d'inscrire son enfant dans un programme comme celui-là, puis vous avez dû en rencontrer avec votre expérience, la gestion de l'élève, de son enfant, parce que le parent demeure toujours le parent de l'élève quand il est dans l'école. Est-ce que vous avez des règles pour réguler peut-être la présence d'un parent avec ses enfants, là? Parce que des fois, les parents qui voient leurs enfants dans une salle de classe, ben moi, j'ai compris avec votre commentaire tout à l'heure que le parent est là pour tous les enfants, hein, c'est ça qu'il faut. Mm-hmm. Maintenant, son enfant, ce sont unique ou deux ou trois, là, dépendamment du nombre d'enfants. Est-ce que ça, il y a de la régulation qui se fait avec les autres profs, ouais, avec la direction? C'est-tu délicat comme situation, ça?
Oui. En général, non. C'est un apprentissage pour le parent puis pour son enfant aussi. Il m'est arrivé des fois de demander aux parents, OK, pour tout de suite, quand tu vas venir, tu peux accompagner d'autres élèves. Ton enfant, c'est trop difficile quand t'es là, la relation, si l'enfant a de la difficulté à répondre correctement. Donc, on amène l'enfant et le parent, on les accompagne pour qu'au fil des semaines, voir maman ou papa à l'école devienne quelque chose de naturel parce que c'est faisable. Mais selon chaque famille, c'est différent. Fait que parfois, oui, on a dû demander à des parents, tu vas aller dans une autre classe. Okay. Puis à d'autres moments, l'enfant est très à l'aise et le parent arrive puis il veut aller accompagner même si son enfant est à la maternelle des sixièmes années, okay, parce que ça va bien. Donc, comme on accueille les enfants, on accueille les parents et ensemble, on apprend à devenir coéducateur.
Bon, bien écoutez, Mme Doré, je dois mettre fin à notre entrevue. Alors, merci pour toutes ces informations. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. J'espère qu'il y a des parents qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui, s'ils évaluent que leur enfant aurait avantage à fréquenter ce type d'école, bien qu'ils auront la détermination pour rappeler dans leur centre de service scolaire puis regarder qu'est-ce qui est possible.
Oui. Alors, oui, puis on a aussi le réseau des écoles publiques alternatives du Québec, appelé le REPAC.
Okay.
Ils peuvent consulter aussi sur le web.
Alors, merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir. Alors, Patrick, tu fermes notre entrevue.
Ben oui, tout à fait. Un grand merci, Manon, pour toutes ces belles informations. C'est vraiment un projet extraordinaire que les écoles alternatives au Québec. Un beau choix pour des parents qui veulent s'engager. Un grand merci.
Merci à vous deux, puis passez une belle fin de journée.
Également, au revoir.
Au revoir.
On fait une petite pause musicale et on est de retour avec la question de la semaine. I'm not sure. Alors, on est de retour avec la question de la semaine, une question d'actualité dont on a déjà entendu parler, mais c'est toujours intéressant de la mettre sur la table. Faut-il avoir peur de l'éclipse totale du 8 avril prochain? Évidemment, vous comprendrez que cette question-là s'adresse au milieu scolaire, hein, pas à tout un chacun. On connaît les différentes options que les centres de services scolaires ont choisies par rapport à cette journée-là. Plusieurs ont décidé de fermer leurs portes par crainte de... Je ne sais pas quoi, en tout cas.
Bien, en fait, quand on en a parlé la dernière fois, parce que j'en ai fait un petit peu une introduction aussi dans les événements de la semaine, parce que évidemment, comme tout le monde, j'ai observé que certains centres de services scolaires avaient déclaré une journée pédagogique et d'autres centres, non. Alors, moi, j'étais un petit peu intrigué par cette évaluation, que je dirais, différente d'une région par rapport à une autre région du Québec. Moi, j'ai pensé, à un moment donné, que c'était lié au fait que l'éclipse solaire arriverait à des moments différents dans certaines régions du Québec et ça avait un impact sur les activités pendant la journée. Mais je me suis rendu compte que l'éclipse, ça va durer quelques minutes.
Quelques minutes, oui.
Ça va être au même moment partout. Alors, il y a des centres de services scolaires qui ont décidé de saisir ce moment-là pour en faire un projet d'éducation. Mm-hmm. Et même, il y a un centre de services scolaires, celui de Sherbrooke, je pense, qui a décidé de reporter le transport scolaire pour permettre aux enseignants de garder leurs élèves, à l'école et de pouvoir leur vivre ensemble, alors que d'autres centres de services scolaires dans la grande région de Montréal ont décidé, pour des raisons de sécurité, parce que c'est ça que j'ai compris,
ouais,
que ça pouvait créer des moments difficiles dans le transport scolaire, entre autres, parce que ça arrive dans un moment de la journée où la plupart des enfants sont dans les autobus. Alors, et ça, j'étais un petit peu surpris. Puis les organismes qui s'occupent de la recherche scientifique ont eu un regard très critique par rapport à ces décisions-là de mettre des journées pédagogiques, alors que ça aurait pu être l'occasion de faire vivre quelque chose aux enfants qui arrivent... une fois dans une vie, en fait.
Oui, vraiment une fois dans une vie, parce que la prochaine, on sait que c'est en 2100 et quelques. Oui, donc on sera plus là, c'est ça. Oui, c'est plus qu'une fois. Alors, c'est moins qu'une fois dans une vie.
Alors, la question qu'il faudrait poser, c'est quand il arrive des choses comme ça, des événements qui sont uniques puis qui sont liés à la nature, à l'environnement, est-ce qu'on ne devrait pas en profiter pour en faire un objet d'éducation?
C'est une très, très bonne question. Et, certains centres de services scolaires nous ont dit qu'il y allait un peu de leur responsabilité vis-à-vis des enfants, hein, leur responsabilité légale vis-à-vis des enfants, d'éviter tout risque d'accident. Hein. Donc, de ne pas les envoyer jouer dehors au moment où il va y avoir l'éclipse. Hein, ça me rappelle le sujet où on disait dernièrement que oui, il faut que les enfants jouent dehors, c'est bon pour eux. Alors, bon.
Alors, moi, je pense, Patrick, qu'il y a toujours une question de contexte dans ce genre de décision-là.
C'est évident.
Alors, et les contextes sont humains, les contextes sont organisationnels, les contextes font partie de beaucoup de facteurs. Alors, j'imagine que nos auditeurs vont nous donner des réponses aussi, là, avec la connaissance qu'ils ont.
Bien, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on mette des journées pédagogiques ou est-ce que vous auriez préféré que les enfants puissent justement vivre des activités pédagogiques avec leurs enseignants à l'école, quitte à allonger la journée un tout petit peu?
En évitant d'appeler ça une éclipse scolaire. Alors, bonne semaine, Patrick.
Merci, mesdames et messieurs. C'est déjà terminé pour nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Au plaisir!